Le retour.
Méfiez-vous.
De Radio X.
C'est un conseil. Un conseil d'amis que je vous donne.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
Dans le retour de Radio X. L'enquêteur du paranormal. Christian Page.
5h13, c'est officiel, c'est la fin de semaine, monsieur monsieur Page. Comment allez-vous? Oui. Comment allez-vous?
Très bien. C'est le week-end pour vous, puis entouré de belles voitures, déjà, ça doit être tentant.
Ouais, puis on s'est dit, il n'y aura pas un sujet, il va y avoir plusieurs questions, des petits sujets, des réponses. On veut, puis on a des questions ici en studio, puis si jamais les auditeurs, ça vous tente aussi de poser une question. Ah, ça fait longtemps, ça fait 10 ans que j'écoute Christian. J'aimerais essayer de poser telle question, 418-670-9098, 418-670-9098. Ça va aller dans tous les sens. Christian, tu es un homme polyvalent, intelligent, oui. Cultivé. Alors, on va s'amuser avec toi. On va se divertir en ce jeu.
J'aime le croire.
En tout cas, hey, tu nous parles de ça, puis tu n'as jamais de notes. Je me dis, OK, non, il a fait un spécial quand il est venu en studio, il n'y avait pas ses notes, mais tu n'as jamais de notes quand tu parles de tes
jamais, sujets. Jamais.
C'est extraordinaire pareil, là.
Fascinant.
Oui, ben oui, c'est fascinant.
Mais, oui, c'est vrai, mais j'étais choyé par la nature pour avoir une mémoire phénoménale. Même si aujourd'hui, là, à l'aube de mes 60 ans, je vois qu'elle commence à diminuer par rapport à ce que j'avais à 20 ans, mais j'ai toujours eu une mémoire qui était exceptionnelle. Moi-même, des fois, je m'étonnais. J'avais 30 ans, je faisais partie d'un panel de discussion, et soudainement, là, ça apparaissait, là, les noms, les dates, les événements, avec une facilité qui était déconcertante. Et il aura fallu une période de cancer, chimiothérapie, tout le reste, pour constater que là, effectivement, ma mémoire est moins parfaite qu'elle ne l'était. Mais quand j'en ai parlé à mon médecin, il me dit, ah, il dit, écoute...
T'as du louche.
Ouais, t'avais du louche. t'es parti avec un beaucoup de crédit, là.
Oui.
Mais pour retenir autant d'informations, Christian, est-ce que c'est des exercices que tu fais une fois de temps en temps? Tu regardes des noms, t'essaies d'y retenir? Non, pas du tout, OK.
Non, pas du tout. C'est inné. C'est un truc qui a toujours été inné chez moi, cette mémoire un peu phénoménale.
Fait que toi, là, quand tu passais tes examens à l'école, collège, université, je sais pas si t'as fait l'université,
oui,
Christian,
oui, oui, l'université
tu retenais tout ça, là.
Oui, tout à fait. Mais encore une fois, il y a une espèce de volonté aussi en la mémoire. Elle est fonction aussi de notre volonté. Dans mon cas, par exemple, j'étais très mauvais en mathématiques. Et pourquoi j'étais mauvais en mathématiques? En fait, j'étais assez mauvais dans les sciences pures, hein, chimie, mathématiques et tout le reste, parce que c'était pas mon intérêt. Je savais, là, dès l'école secondaire, que je n'irais pas dans un domaine des sciences pures. Donc, ça ne m'intéressait pas. Et les mathématiques, moi, je me rappelle au secondaire, quand on a commencé à faire, bon, l'algèbre et ensuite les calculs différentiels et tout le reste, je me disais toujours sur les bancs d'école, mais à quoi ça va me servir, cette foutue mathématique? Ça me servira strictement à rien. Et j'étais là, mais probablement dans les dernières classes en mathématiques. Et c'était étonnant parce que dans d'autres, par exemple en français, en géographie, en histoire, j'étais toujours premier de classe. Mais en mathématiques, j'étais vraiment pourri. Et la raison, c'est que il y avait une espèce de résistance personnelle. Je me disais, je veux rien savoir de ça, je me fous de ça. Je comprenais rien à ça, ça ne m'intéressait pas. Et je le dis aujourd'hui, l'algèbre, je vois pas en quoi ça a pu me servir dans ma vie. J'ai jamais utilisé ça, l'algèbre, les variantes si X est égal à
ça. Plus pour développer le raisonnement, là.
Oui, tout à fait. Hein? Donc, je ne renie pas ça, là. Ben oui. Mais l'utilisation, là, disons, là, ça ne m'a pas servi. Et évidemment, les formules, tu sais, par exemple, bon, on sait c'est quoi l'attraction, tu sais, mais soudainement de dire, bon, ben, l'accélération est égale à ci, à ça, avec des formules mathématiques, les kilos, kilojoules, ça ne m'a jamais vraiment servi. Je savais au départ que je n'irais pas vers les sciences pures et j'avais une résistance personnelle, ce qui fait que j'avais énormément de difficultés à retenir à la fois les formules ou les principes mécaniques derrière cette logique-là. Mais encore une fois, je pense que c'est fonction de nos attentes. En revanche, en histoire, moi, j'écoutais, mais aussi, j'imagine que
en
les
fait,
enseignants...
En fait, le prof, de temps en temps, il disait, Christian, donne donc le cours.
Oui, ben, en fait, ça m'est arrivé à l'université, effectivement, de remplacer ça. Mais moi, je me rappelle, il y a toujours aussi un lien avec le professeur. Il y a des enseignants qui sont excellents pour transmettre leur matière, d'autres sont endormants. Donc, si on a un enseignant qui rend ta matière très vivante... Moi, j'avais un prof, là, je vais toujours me rappeler de ça, j'avais un prof en histoire, il racontait tellement bien là, qu'on se fermait les yeux puis on était littéralement projetés dans l'histoire. Là. Je me voyais là, dans les grandes conquêtes, Rome, Troie, etc. Il nous racontait ça avec une telle qualité là, dans le détail qu'on avait l'impression de voir défiler devant nos yeux un film. Et ça, bien évidemment, c'est pas nécessairement donné à tous les enseignants d'avoir cette qualité de transmettre leur information. Moi, je te cacherai pas que j'ai vu beaucoup de profs, que ce soit au cégep ou à l'université, qui étaient, c'est triste à dire, mais qui étaient là pour le salaire. Hein, ils arrivaient en avant, puis là, on était tous dans la classe. Bon, OK, on va parler de ça. Il y avait aucun intérêt, on sentait pas qu'il y avait une espèce de lien là, émotif par rapport à son sujet. Il le racontait essentiellement pour avoir son salaire à la fin de la semaine. Mais il y en avait d'autres. Là. Ils rentraient dans le cours et là, on était plongés dans leur univers. On voyait qu'ils avaient une passion pour leur sujet. Et j'ai essayé, moi, toute ma carrière de raconteur d'histoire, j'ai essayé de transmettre également cette façon de raconter une histoire pour la rendre la plus vivante possible, pour que les gens se disent « Wow! » C'est une bonne histoire, elle est bien racontée, elle est bien ficelée, puis ça nous fait voyager.
J'étais parti sur la c'est toujours intéressant d'entendre. Écoute, on a plein de questions complètement différentes pour toi ce soir, Christian. La première, parce que là, Artemis, on sait que ça s'en vient, là, la mission habitée, il y a quelques retards qui sont en cours présentement. Mais si on se propulse un peu plus loin, penses-tu que les missions habitées sur Mars, on sait que c'est le grand rêve d'Elon Musk et de SpaceX et de tous ces business-là avec Blue Horizon, avec Jeff Bezos,
Quoique là, actuellement, Elon Musk est revenu un peu plus vers la Lune que vers Mars.
Le réalisme un peu.
Un objectif plus lointain.
Mais penses-tu que d'ici 20, 30, 40 ans, un être humain pourrait éventuellement marcher sur la surface de Mars?
Éventuellement, l'homme va marcher sur Mars. Je n'ai aucun doute là-dessus et j'ai même l'assurance, la conviction profonde que l'homme va s'enfoncer plus loin même dans notre système solaire. Probablement qu'au siècle prochain, on verra probablement des hommes débarquer sur des lunes de Jupiter ou des lunes de Saturne. Mais mettre une échelle sur à quel moment ça va se faire. Moi, je me rappelle, lorsqu'on a débarqué sur la Lune en 1969, et dans les années qui ont suivi, la dernière mission lunaire, là, c'est 1972, on était tellement enthousiasme par rapport à l'espace qu'on se disait, bon, ben d'ici la fin du siècle, on parlait bien ici là, du 20e siècle, on disait, d'ici la fin du siècle, on marchera sur Mars, et au siècle prochain, donc le 21e siècle dans lequel nous sommes, sur Vénus. Là, je me dis, wow. Mais bon, évidemment, c'était sans tenir compte de tous les aléas de la politique, de l'économie, tout le reste qui viennent changer un peu les plans. Mais sans mettre une période de temps, là, une espèce de date de tombée, je te dirais qu'il n'y a aucun doute qu'éventuellement, c'est le propre de l'être humain de repousser les frontières. Et comme on peut le faire, bien, on le fera. À un moment donné, on va avoir la technologie qui nous permettra d'aller sur Mars et éventuellement une technologie qui nous permettra de visiter les planètes de notre système solaire, celles qui sont visitables, parce qu'on ne peut pas se poser sur Jupiter ou Saturne, parce que ce sont des boules de gaz.
Ouais,
c'est ça. Mais sur les lunes, par exemple, il y a des lunes qui sont très bonnes candidates, pour essayer de trouver des formes de vie. Je pense notamment à Encelade, qui est une lune de Saturne. Bon, je pense également, tu as mentionné Europe, qui est une lune de Jupiter. Ce sont des candidates qui sont très intéressantes là, pour essayer de trouver des formes de vie. Et éventuellement, comme nous sommes capables d'y aller, ben nous irons. Ça, c'est sûr que nous irons. Quand? Ben là, c'est une autre problématique parce qu'on doit tenir compte de tous les échéanciers qui nous sont imposés par la politique et l'économie.
Christian, moi, j'adore consulter le site ovniexpert.com et on y parle d'un événement qui m'a beaucoup marqué. C'était le 27 juillet 2009. Déjà en Outaouais, à Elmer, dans la rivière des Outaouais, où il est arrivé quand même quelques événements. Mais ce soir-là, il y a une grosse détonation et un objet lumineux qui est tombé dans la rivière des Outaouais devant énormément de témoins. L'armée a même été impliquée là, dans les recherches, les policiers, tout ça. Et dès le lendemain, on a admis avoir trouvé quelque chose sans trop savoir ce que c'est. Et rapidement, on a cessé d'en parler. Il y a même des articles que j'ai trouvés sur le web qui sont finalement disparus. Et je me demandais si tu avais quelque chose à nous raconter en lien avec ça, parce que je trouve ça quand même mystérieux qu'il y ait eu autant de témoins qui aient, oui, retrouvé quelque chose qui était incapable de confirmer la provenance et ce que c'était finalement. Puis c'est comme si... on a décidé de plus en parler tout simplement, puis de fermer le dossier. Mais sur le site d'OVNI Expert, il n'y a comme toujours aucune réponse à ce jour. Donc, je me demandais si tu avais une explication.
Dans le cas de cette histoire-là, il faut quand même préciser que les gens ont mentionné, il y a des gens qui ont mentionné l'intervention des forces militaires sur place. Et très souvent, bon, lorsque le récit est percolé, soit dans les médias sociaux, bon, on évoque cet élément-là, mais l'armée, elle, a complètement nié avoir participé à quelque recherche que ce soit. Donc, on n'a pas une confirmation officielle sur une implication de l'armée. Maintenant, on a des témoins qui disent, ben voilà, on avait un objet tombé dans la rivière des Outaouais. La problématique à ça, il peut s'agir de plusieurs types d'objets. Est-ce que ce sont des débris, un débris spatial qui est tombé? Est-ce que c'est un bolide, un météorite qui serait tombé? Ou est-ce que c'est autre chose de plus exotique? Malheureusement, à défaut d'une preuve matérielle, on doit s'en remettre essentiellement aux témoignages. Et les témoignages, même si le canevas de fond reste le même, c'est-à-dire on a vu un objet éventuellement tombé dans la rivière des Outaouais, sans une preuve matérielle, on reste avec un grand point d'interrogation. Et c'est un peu... cette image-là, elle est à l'image même de tous les phénomènes des ovnis, c'est-à-dire que malheureusement, on doit trop souvent s'en remettre aux témoignages, et des témoignages, bien, ça ne reste que des histoires que les gens se racontent et que, d'une bouche à l'autre, bien, souvent, là, quand on raconte cette histoire-là, elle est multipliée, elle est transformée, elle est améliorée en fonction, souvent, des attente de celui qui transmet l'information. Donc, pour l'instant, je rejoins un peu, je connais les gens de OVNI Expert. Ce sont des gens qui font un bon travail. C'est-à-dire, il faut toujours se rappeler que on est toujours en présence de... Lorsque l'on parle de groupes et d'associations qui sont civiles, parce qu'il faut le dire, au Canada, même si on a participé l'an dernier, le gouvernement canadien a publié une réflexion sur les observations d'OVNI à laquelle j'ai participé, qui s'appelle le projet Ciel Canada. Il n'existe pas au Canada un organisme étatique qui collige l'information sur les OVNI. On doit s'en remettre à des groupes sur le terrain. Ce sont des groupes bénévoles. Et bien souvent, ce qui motive ces groupes-là, c'est leur croyance personnelle. Je comprends que si ces gens-là ne croient pas aux ovnis ou ne croient pas aux extraterrestres, ben ils vont aller jouer au golf le samedi matin et ils n'iront pas s'intéresser à des histoires d'ovnis. Donc,
Mais on parle quand même d'un événement comme là, tu sais, bon, la vieille nouvelle, là, TVA Nouvelle, à l'époque, avait mentionné, je lis ici, là, des membres des Forces armées canadiennes à bord d'un hélicoptère ont localisé la masse dans la rivière, mais ça s'arrête là.
Donc, oui, c'est ça.
Pourquoi?
Donc, on a ces histoires-là. Et éventuellement, l'armée dit, bon, mais nous, on n'a pas trouvé rien, on n'a pas participé à de recherches de fouilles intensives, rien. Donc, l'histoire s'arrête un peu là. Et ça reste un point d'interrogation. Donc, toutes les enquêtes qui ont été menées par les amateurs sont tombées dans un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive, on n'a rien. Donc, on a une histoire qui est intéressante, mais sur laquelle, pour l'instant, on n'a qu'un gros point d'interrogation. Mais c'est une excellente histoire que tu racontes là. Mais faute de preuves matérielles, on doit donc s'en remettre à dire, bon, ben OK...
Puis le pire, c'est qu'ils l'ont, la preuve matérielle, mais ils sont incapables de déterminer ce que c'est.
Ben encore faudrait-il savoir, parce qu'il y a plusieurs, tu sais, dans la même foulée, par exemple, il y a quelques années, il y a eu une observation d'OVNI. On est au Manitoba, je crois, donc il y a une observation d'OVNI qui se fait près du lac Manitoba, tout ça. Et là, les gens rapportent ces événements-là, il y a l'intervention de l'armée, et éventuellement, donc il y a toute cette histoire-là qui s'amplifie dans les médias pour finalement découvrir, ultimement, que l'armée a admis qu'elle avait, encore une fois, là, c'est une question de se situer par rapport au récit qui nous est fait. Mais l'armée, elle répond qu'éventuellement, Tout ça faisait partie d'une opération militaire qui était confidentielle, qui n'avait rien à voir avec les ovnis. Là. C'était vraiment une espèce d'opération militaire en terrain hostile, bon, qu'on voulait à laquelle on a participé. Donc, pas d'ovnis. Ce que les gens avaient observé, apparemment, étaient des parachutes flares, donc des fusées éclairantes munies de parachutes qu'on avait lancées dans le ciel, que les gens avaient confondues à des ovnis. Et les équipes sur le terrain étaient des militaires qui participaient un peu comme si on faisait une grande pratique pour essayer de retrouver des gens qui se seraient écrasés par exemple, avec un avion dans un terrain montagneux et enneigé. Donc, c'est une espèce d'opération de survie, de retrouvailles, de secouristes qui avait été fait en terrain hostile. L'armée avait pourtant émis un communiqué à cet effet-là. Mais évidemment, bon, les gens ne lisent pas ces communiqués-là nécessairement. On ne va pas tous les jours sur le site de l'armée canadienne, le ministère de la Défense, pour lire les communiqués. Mais éventuellement, l'histoire est comme terminée. C'est terminé un peu dans une espèce de sensation de est-ce que l'armée nous a tout dit? Est-ce que l'armée a caché des choses?
C'est de faire disparaître même des reportages.
Oui, c'est ça. Donc là,
c'est vraiment particulier. Là, ça m'a marqué. Là. Ça fait longtemps.
Ouais, tout à fait. Donc,
j'y pense encore.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une histoire qui est restée mystérieuse. Et à moins d'une nouvelle investigation et que finalement on réussisse à déterrer des documents militaires qui permettraient d'établir exactement ce qui s'est passé, on reste avec une histoire qui est intéressante, mais sans plus. C'est une histoire qui n'a pas de preuves matérielles.
Merci beaucoup, Christian. Ça a été un 15 expéditif.
Mais tellement
c'est déjà terminé.
Oui,
ah bon.
Déjà tant terminé. C'est ça.
Oui.
Merci beaucoup, Christian. Bon week-end.
C'est le week-end.
Le week-end, Christian, mesdames, messieurs.
Ça marche.
On sera là demain à 18h. On va t'écouter. OK, bye.
OK, ça marche.
Le retour de Radio X.
Téléphone, texto. 418-670-9098.
Radio X.